Interview. 1. Interview.
Ok, the bird.
L'interview du jour.
Vous écoutez RDWA 107.5 FM et internet www.rdwa.fr en compagnie de Moussa Diagne. Salut à toi, Moussa.
Salut.
Alors, c'est une interview bien sûr confinée dans toutes les règles de l'art, mais là encore plus, hein, on ne pouvait vraiment pas se toucher, se rencontrer, puisque auditrice, auditeur, je vous emmène au Sénégal, chez Moussa. Moussa, que vous connaissez peut-être à l'antenne quand même, en tout cas c'est autour du projet Drôme Sénégal, l'Escape Game. Et Moussa, d'ailleurs, rappelle-nous d'abord tout de suite quel est ton lien dans ce projet tenu par la Frappe côté français. Et donc, toi, tu es la partie sénégalaise, hein, de ce projet.
Oui, ouais, c'est moi qui coordonne le projet côté Sénégal. Et comme tu l'as dit, j'ai eu à séjourner dans la Drôme au mois de novembre-décembre. J'ai quitté là-bas en début décembre, juste avant, peut-être avant tous ces problèmes-là. Donc, je coordonne tout ça au Sénégal.
Et comment ça se passe? Il y a un groupe de jeunes aussi de votre côté?
Oui, il y a un groupe de jeunes qui se trouve dans un village qui est à 20 km avant Saint-Louis, qui s'appelle Rao. En fait, c'est un ensemble de villages dans une commune. Il y a trois villages, Rao, Pundium et Guitour, qui sont dans la vallée de Dialakhar. Donc, voilà. Il y a un groupe de 20 jeunes qui sont là et ils attendent, quoi. Depuis cette histoire d'état d'urgence, de confinement et de coronavirus, ils s'impatientent un peu.
Et comment ils ont été rattachés à ce projet?
Dans un premier temps, je suis allé, j'ai séjourné là-bas parce qu'il y a une association que je connais bien qui s'appelle Forum Vert, qui travaille avec des jeunes autour des questions de changement climatique. Donc, c'est avec cette association que j'ai travaillé. Et on avait identifié 5 villages et on est allé voir les jeunes dans ces villages. J'ai fait une immersion de 10 jours pour rencontrer les différents jeunes, les leaders d'opinion, les chefs de village et toutes ces personnes-là qui sont susceptibles de apporter quelque chose en fait dans ce projet-là et qui sont incontournables en fait. Et donc c'est à la suite de cela que 3 villages se sont dégagés parce que aussi il y avait le fait que dans la Drôme on ne pouvait pas avoir on avait du mal à regrouper les jeunes et qu'il y avait un groupe de 6 jeunes je pense qui se sont dégagés. Et du coup, il y avait un déséquilibre entre la Drôme et ici. Donc, petit à petit, on a pu regrouper entre 12 et 20 jeunes aussi dans la Drôme. Et ce qui nous a amené aussi, nous, à retravailler avec ces 5 villages. Et du coup, il y a eu 3 villages qui se sont dégagés, en fait, qui sont, dans un premier temps, qui sont plus accessibles et où les jeunes se mobilisent encore un peu plus. Donc, on a choisi ces 3 villages-là. Et dans chaque village, on a réuni les jeunes qui se mobilisaient le plus autour du projet, ce qui nous fait 10 jeunes dans le village centre qui est Rao, et 5 jeunes dans les 2 autres villages, dans chaque village.
Le projet de cette Escape Game Drôme Sénégal, c'est de parler de la transition des territoires, de venir analyser, que les jeunes en tout cas portent cette analyse sur leur territoire et vous également de votre côté, hein, donc pour la Drôme et autour de Rao, et se croiser à un moment donné pour échanger sur ces thématiques-là. Et comme tu le disais, toute cette problématique de confinement finalement a mis en arrêt cela.
En fait, le projet, c'est pas le Escape Game. L'Escape Game, c'est un des activités du projet. Le projet, c'est un regard en fait croisé sur tout ce qui est transition écologique. Le regard croisé entre celui des jeunes de la Drôme et celui des jeunes du Sénégal. Voilà, c'est ça. Ce qu'on a fait, c'est que avant le confinement et l'état d'urgence, on a travaillé chacun de notre côté et il y avait des échanges visio entre la Drôme et le Sénégal, et puis des échanges de sujets aussi sur lesquels les jeunes de la Drôme ont travaillé, des sujets du Sénégal et des sujets de la Drôme sur lesquels les jeunes du Sénégal ont travaillé. Et des sujets à l'interne ici aussi sur lesquels les jeunes ont travaillé. Ils se sont échangés des vidéos de présentation personnelle et de présentation de leur terroir à des vitesses variables en fait, selon que ce soit de la Drôme ou du Sénégal. Et après, avec le confinement, tout s'est arrêté en fait. Il y a eu un échange, pas un échange, un envoi de vidéos des jeunes de Raou pour montrer leur solidarité en fait face à ce problème-là, au confinement qu'ils ont échangé avec les jeunes et qu'on a partagé sur la page Facebook du groupe. Voilà ce qu'on a fait.
Alors, puisqu'on te tient, nous, à l'antenne, Moussa, on va justement se permettre de rentrer un peu dans le détail de comment ça s'est traité, cette pandémie de Covid-19 au Sénégal, à Dakar, sa capitale, tout ça. Donne-nous un petit peu ton point de vue sur comment ça s'est géré déjà politiquement. Qu'est-ce que vous devez faire? Tu as parlé d'état d'urgence, il y a un couvre-feu aussi assez important. Et puis toi-même, comment tu te confines?
Oui, je pourrais parler de comment je supporte tout ça, parce que ce serait prétentieux de porter la voix d'un pays, étant donné que je suis mandataire de rien du tout dans cette histoire-là. Je peux parler de moi, de ce que comment je le vis et tout cela. Et des retours que j'ai, parce que moi, depuis le début, je suis en confinement en fait volontaire, parce qu'il faut dire qu'au Sénégal c'est pas à proprement parler un confinement, on n'a pas décrété un confinement. Ce qui s'est passé, c'est que il y a eu un état d'urgence, l'état d'urgence a été décrété et un couvre-feu de 20 h à 6 h du matin, étant entendu qu'en journée les gens vont à leurs occupations. Ça s'est fait de manière graduelle. Au début, c'était juste ça. Après, petit à petit, des marchés, des lieux de commerce ont été fermés. Chaque fois qu'il y a eu un problème quelque part ou dans un secteur, on essaie de régler ce problème-là au niveau de ce secteur-là et au niveau de la zone. Et ça s'est fait de manière graduelle. Ce qui se passe aussi, c'est que compte tenu qu'il y a des impacts économiques considérables, parce que le pays vit peut-être plus avec le secteur informel que formel. Et il y a beaucoup de poches de pauvreté. L'État a consenti à distribuer des vivres aux personnes qui vivent dans cette tranche-là de pauvreté-là, en fait.
Du coup, voilà, ce que tu disais toi, c'est que tu as opté, et certaines personnes ont opté, pour un confinement autonome, en se disant, voilà, je me protège ou je protège les autres en me sortant pas. Et ça s'est beaucoup pratiqué ou c'est toi personnellement, tu sais que c'est...
Moi, personnellement, c'est ce que je fais. Il y en a qui le font, mais pas beaucoup, en fait. En fait, il faut signaler que c'était avant même le confinement. J'étais pas très, très loin de ce genre de vie-là. Moi, mes sorties ne sont pas trop, trop, trop fréquentes et je reste le plus souvent chez moi, à lire, à écrire, et voilà. Donc, ça, je suis pas très dépaysé par rapport à cela. À la différence que quand fixe en fait les conditions d'un confinement. Quand on donne des règles, ça donne une autre tournure à l'affaire, parce que ce n'est plus volontaire en fait. Il y a une différence entre un confinement volontaire et un confinement forcé. C'est cette notion de liberté qui se joue dans les deux-là. Moi, je n'ai pas attendu que cette liberté me soit, je vais le dire, ôtée ou que cette liberté soit mise en veille pour un temps, pour le faire. C'est un confinement volontaire que je fais et c'est pas, je ne connais pas beaucoup de gens qui le font d'ailleurs.
Et donc, l'État, par exemple, ne vous a pas invité à penser ça, justement, volontairement le faire. Et je vais poser la question suivante. Est-ce que, du coup, ça pourrait être une des pistes qu'un jour adopterait le Sénégal? Enfin, tu vois ça comme quelque chose qui pourrait arriver? Justement, tu parlais de liberté qu'on pourrait te t'ôter. Est-ce qu'un jour, c'est possible, c'est dit, ça s'entend qu'on pourrait vous ôter cette liberté?
Bon, les gens, ils vont de leur façon de penser, mais moi, je ne crois pas que ce puisse être possible ici, parce que le confinement suppose beaucoup de choses, quoi. C'est le mode de vie ici qui ne va pas avec un confinement total. Les gens vivent, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec c'est le secteur informel qui est très développé ici. Les gens, ils vivent au jour le jour. Et je ne vois pas comment on peut faire respecter un confinement total pour tout le monde, en fait.
Et donc,
Ça m'étonnerait qu'on puisse le faire.
en dehors du couvre-feu, toutes les libertés vous sont acquises. Vous pouvez aussi vous rassembler. Les lieux de rassemblement sont encore.
Non, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est graduel.
Oui.
Il y a d'abord, avant-hier, on a décrété le port du masque obligatoire, par exemple, dans les lieux de commerce, dans les transports en commun, dans tout ce qui est espace public. C'est obligatoire maintenant, depuis avant-hier. Avant cela, il y a eu, par exemple, la distanciation sociale qui a été imposée, qui est plus ou moins respectée. Dans les transports en commun, le nombre est réduit. Voilà, c'est petit à petit c'est du cas par cas, en fait, je vais dire quoi. C'est graduel, en fait. Les mesures sont plutôt graduelles.
Et est-ce que pour autant, il y a beaucoup de cas?
Beaucoup de cas, c'est assez relatif. Si on compare avec les pays d'Europe ou d'Asie ou d'Amérique, il n'y a pas beaucoup de cas. Parce qu'aujourd'hui, il y a 30 cas positifs sur près de 500, 400 et quelques testé et il y a eu un mort. Donc depuis le début de l'épidémie, de la pandémie, il y a eu 6 morts en fait au Sénégal, 6 décès constatés au niveau des structures de santé.
Et comment ce chiffre s'explique selon toi?
Ben, il faut dire que dès le début de l'épidémie, les frontières ont été fermées, donc il y a depuis pas mal de temps, il y a plus de cas importés. Donc, il reste que les cas qui sont les gens qui ont été contaminés. Et voilà. Donc, c'est une première explication. Il n'y a pas d'autres cas qui s'y ajoutent. Et à mon avis, dire que le système de santé n'est pas performant ou adapté, c'est très hasardeux. C'est très hasardeux de le dire. Est très cliché de dire cela. Et dire que les morts, tout le monde, on n'a pas tout compté, c'est aussi très hasardeux en fait, parce qu'il n'y a pas un pays où on compte tous les morts dans les maisons ou dans les, voilà, hors des structures de santé. Ce qui est sûr, c'est que le chiffre qu'on a donné, c'est le chiffre des décès de Covid au niveau des structures de santé et au niveau de, voilà. Donc, le reste, c'est pure spéculation. Pourquoi? Je ne peux pas trop m'avancer d'un point de vue peut-être scientifique là-dedans, mais mon idée, c'est que c'est une maladie à laquelle les gens sont un peu familiers, plus familiers ici. Et que, bon, si on prend par exemple le paludisme, ça, c'est toujours ici, quoi. C'est en latin, on a toujours ce truc-là. Et les gens prennent beaucoup de médicaments contre cela. La grippe aussi, c'est permanent. Les gens prennent beaucoup de médicaments de cela. Il y a peut-être aussi le facteur climat qui joue. Donc tout ça peut justifier en partie. En partie parce qu'il y a d'autres pays qui ont enregistré beaucoup plus de morts. Beaucoup plus de décès que le Sénégal, la Côte d'Ivoire, Burkina Faso et tous ces pays-là, Maroc, Afrique du Sud. Donc, il y a quelque chose que je n'arrive pas à me l'expliquer. Bon, j'ai pas de réponse à cela, quoi. Parce que là, déjà, regarde, on a combien? On a 6 morts. On a 400, peut-être 400 et quelques malades déclarés. Et tout le monde est sur le qui-vive, tout le monde est stressé, on parle de... C'est comme si c'était la fin du monde, quoi. C'est comme si, voilà, on avait des millions de morts, quoi. Des millions de morts, des millions et des millions de malades, quoi. Je me demande bien à quoi tout cela tourne, quoi.
Les médias traitent comment l'information? Tu as l'air de dire que c'est très les gens ont très très peur, mais finalement vous en sortez plutôt bien.
Ben, est-ce que c'est une peur ou une peur entretenue ou bien une défiance aveugle? Je ne sais pas, parce que dans tous les médias, que ce soit la presse, que ce soit la presse en ligne, que ce soit les télés, les radios, tout le monde s'y met, les artistes, tout le monde s'y met, l'État, tout le monde. C'est comme si on vivait juste à l'heure du Covid, quoi. Tout tourne autour de ça, quoi. C'est comme si tout était à l'arrêt et tout tourne autour de ce problème-là.
Tu parlais aussi tout à l'heure du fait que vous étiez habitué à prendre aussi un certain nombre de médicaments en permanence pour le palu ou pour différentes autres maladies. C'est quel type de médicaments? Est-ce que du coup il y a eu une
Là.
politique de vous donner des médicaments très vite, là, même quel que soit ce qui se passe?
Ben, là, je te donne un exemple. Là, tout à l'heure, j'ai regardé le journal de 20 heures. Et hop, je vois que Sanofi a donné au Sénégal, je ne sais plus combien de tonnes de plaquenil. Voilà, ça. Ce qui, voilà, rapporté au contexte français ou à d'autres contextes, peut paraître un peu bizarre. Moi, je me rappelle de toute mon enfance, j'ai toujours pris de la Nivaquine, quoi. À titre préventif pour le palu. Et de tout le temps, il y a de la quinine sous des marques diverses et avec des molécules, je ne sais, les mêmes molécules et qui se vendent en pharmacie pour beaucoup d'autres maladies.
Donc du coup, voilà, c'est des produits que vous avez en permanence, qui vous sont administrés en permanence, ce qui pourrait
Ce qui
expliquer tout
pourrait
un tas de choses, mais on va pas s'y risquer, nous, hein. C'est bien ce qu'on on dit depuis le
On dit, ouais,
début.
mais bon, demain, ça peut interpeller sur beaucoup de choses, des choses un peu plus profondes, voire très philosophiques, quoi. À quoi tourne la médecine moderne, en fait? Qu'est-ce qu'on donne pour recevoir cette médecine? Qu'est-ce qu'on cède? Qu'est-ce qu'on laisse de côté pour bénéficier de cette médecine? Je me rappelle quand j'étais dans la Drôme, il y avait une très forte, je veux dire, il y a beaucoup de gens qui prenaient on appelle ça, des huiles essentielles, qui
Oui.
retournaient à genre médecine un peu plus traditionnelle, qui retournaient, donc, qui ont laissé et qui retournent. Donc, c'est comme si, d'un autre point de vue, il y avait quelque chose à céder pour accéder à cette médecine, pour entrer dans plus de modernité, dans plus de je ne sais pas quoi encore qu'on appelle. Et ce tribut à payer, bah, est assez lourd. Et on arrive à un moment où on dit, écoute, on arrête. Il y a des industries pharmaceutiques qui nous pompent l'air, qui nous prennent notre argent, et puis on arrête quoi. Et là, on retourne vers où? Vers cette médecine traditionnelle qui n'est pas encadrée, qui n'est pas. Voilà. Est-ce la meilleure chose? Est-ce la pire des choses? En tout cas, on est à un moment donné où les gens se posent des questions.
Est-ce que c'est paradoxal de se poser ces questions au moment où justement vous semblez plutôt bien protégé par le fait d'avoir été un peu comme ça soumis justement à ce que tu disais des firmes pharmaceutiques et à une surexposition à des médicaments?
Si je me souviens bien, c'est Sigmund Freud qui disait que chaque société crée ses maladies et crée les conditions de les guérir. Si on entre en plein dans ce qu'on appelle aujourd'hui la modernité et tout ce qui s'ensuit, voilà, on prend tout ou on laisse tout, quoi. Donc c'est un peu ça. C'est un peu ça le dilemme entre des sociétés dites occidentales ou occidentalisées ou modernes ou modernisées et les sociétés qui peinent à entrer dans ce jeu de modernité-là, qui, à mon sens, ne signifie pas grand-chose, en fait.
Qu'est-ce que vous auriez perdu?
Je dis bien que ça n'a pas de sens pour moi parce qu'on ne perd rien, on ne gagne rien du tout. On n'avance pas d'un iota. On est là où on était.
C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'évolution pour les grandes maladies présentes, comme par exemple le palu, comme est-ce que tu crois que par exemple en ayant une immunité différente due aux huiles essentielles, etc., ça aurait pu, par exemple, hein, parce que tu l'as cité, modifier ce rapport aux maladies.
Mais le palu n'a pas disparu. Le palu est en permanence ici, au Sénégal et en Afrique. Ça a disparu peut-être pour les sociétés, comme je disais, occidentales, modernes et modernisées, tout ça. Mais ça existe toujours. C'est un peu cette notion de cloisonnement, de terroir, de territoire, de pays et tout ça. On pense que c'est disparu disons, un endroit de la Terre, mais c'est toujours présent sur Terre. C'est ça le problème, en fait. Ça ne disparaît pas, parce que les gens ne font rien pour que ça disparaisse.
Du coup, en opposition, ce Covid-19, lui, vient nous rappeler à quel point nos sociétés sont aussi, voilà, peuvent être aussi tributaires voilà, d'un virus qui, lui, ne partirait plus et resterait comme ça, avec lequel il faudrait qu'on vive.
Bon, à mon avis, l'interpellation, selon moi, ce sont les priorités, en fait. Est-ce qu'il faut prioriser ce qui est déjà délimité, en fait, prioriser les choses dans un terroir, dans un territoire déterminé, ou est-ce qu'il faut prioriser les choses en tenant compte du fait que nous sommes tous sur Terre, quoi. En fait, c'est ça, en fait, l'interpellation majeure pour moi. De ce Covid-là. Est-ce qu'il faut penser la santé au niveau pays, au niveau région, au niveau continent ou au niveau mondial? Donc c'est un peu ça, moi, ce que ça m'interpelle. Parce que ça aurait été le palu, ça aurait été Ebola, parce que Ebola est toujours là, existe toujours en Afrique centrale, en latence. On ne règle pas le problème parce que c'est justement circonscrit. Je vais employer le terme qu'on utilise actuellement, c'est confiné dans un terroir, dans un territoire donné, en Afrique centrale, où il n'y a pas peut-être un enjeu selon ceux qui croient diriger le monde. Ce n'est pas un enjeu. C'est circonscrit là-bas. Et on fait comme si Ebola n'existait plus. C'est la même chose si ce Covid-là parvient à quitter certains pays ou certains continents et se circonscrit dans un no man's land quelque part, on serait dit, ben écoute, maintenant, on laisse de côté, quoi.
Et si on avait eu Ebola ou le palu ici, tu crois qu'on aurait bougé plus vite?
Ah ouais, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Ne me dis pas que palu, il n'y a jamais eu de palu en Europe, quoi. À un moment donné, il y en a eu, on a réglé ce problème et puis il n'y en a plus. Maintenant, il y en a dans un no man's land qu'on appelle Afrique et puis on laisse comme ça. Le monde est à l'arrêt, entre guillemets, bien sûr, est à l'arrêt à cause d'un virus. D'un virus, alors qu'il y a des milliers de virus en circulation. Et au lieu de régler le problème viral, le problème des virus, on essaie de régler un problème qui se pose pour un certain nombre de pays. Voilà. Et c'est ce qui est dommage, quoi. Ce qu'il faudrait, c'est régler le problème de tous ces virus-là qui circulent. Et voilà. C'est de réfléchir, de poser le problème de la santé en termes humains, mais pas en termes de nationalité.
Certains courants de pensée estiment que le virus était là, a toujours été là, comme une maladie aiguë pour venir quelque part réguler la population sur Terre. Alors, je te pose volontairement cette question, et d'autant plus que effectivement l'Afrique s'est retrouvée, certains pays d'Afrique se sont retrouvés dans des phases aussi de surpopulation. Ce qui est notre cas maintenant, aujourd'hui, un peu partout dans le monde de toute façon, et qu'on a souvent mis l'expansion de virus comme le palu ou Ebola sur le sol du continent africain, dû à cette surpopulation, malnutrition, tout un tas de choses dont on est d'ailleurs partiellement ou complètement responsable. Et d'un autre côté, eh bien, bah voilà, ça arrive aussi aux sociétés occidentales propres, qui ont l'impression d'être fortes et puissantes avec ce Covid-19. Qu'est-ce que tu penses de la nécessité de ces maladies aiguës pour nettoyer, en opposition à ce que tu viens de dire à l'instant, du fait qu'il faudrait qu'on se concentre à se soigner de ces virus, de tous les virus?
Ok, si ce virus est intentionnellement mis quelque part pour nettoyer, c'est en train de nettoyer. C'est en train de nettoyer là où il y a plus de monde.
Mais sans
C'est pas
parler
en
d'un...
Afrique qu'il y a plus de monde.
Non, c'est vrai. Et c'est sans intention.
Je pense qu'il y a beaucoup de termes qui sont balancés un peu comme ça et les gens ne comprennent pas beaucoup. Beaucoup de gens qui n'ont jamais été en Afrique idéalisent ou bien pensent l'Afrique d'une certaine manière qui n'est pas vrai en fait. La population de Paris fait combien? 11, 12 millions?
Oui, sans doute.
La population du Sénégal fait 13 millions. Donc, le Sénégal, c'est la population de Paris. Tu vois un peu? Donc, il n'y a pas plus de monde en Afrique qu'en Europe ou en Asie. Ça, c'est une vue de l'esprit. Dire que l'Afrique est surpeuplée, il faut diminuer, c'est une vue de l'esprit. L'Afrique n'est pas du tout surpeuplée comparée à l'Europe, quoi. Ça, c'est comparé à l'Europe, comparé à l'Asie, l'Afrique n'est pas du tout surpeuplée.
Tu fais bien de nous le rappeler et je voulais pas dire ça et me faire la voix de ce discours-là. Ce que je voulais questionner, c'était plus ce que tu pensais du fait que ces virus puissent être nécessaires d'une certaine manière ou qu'il ne faille pas les combattre frontalement dans la mesure où effectivement ils régulent une partie de la population faible, peu importe où elle se
Oh,
trouve.
nécessaire, c'est trop dur parce que ce qui est nécessaire, c'est ce qui ne peut pas ne pas être. Et ce virus, ben, c'est ton virus qui tue et voilà, ça arrête la vie là où on pensait que ça ne devait pas s'arrêter. Donc, c'est pas une nécessité, ce virus-là. Je ne pense pas qu'il puisse y avoir une force comme ça qui agirait pour équilibrer le nombre de personnes sur Terre. Vois-tu, le nombre de personnes sur Terre a été toujours posé de la même manière. On dit que jamais on a atteint 11 milliards, on va atteindre 11 milliards. Mais chaque fois qu'on atteint un nombre, jamais on a atteint ce nombre-là. Depuis tout le temps, si tu prends les théoriciens des religions, on a commencé par deux personnes, Adam et Ève. Après, jamais on est descendu jusqu'à un, quoi. Chaque fois, ça augmente, ça augmente. C'est un faux problème, c'est un faux débat. Ça, c'est un faux débat. il y a assez de ressources, il y a assez d'argent, il y a assez de ressources pour que tout le monde puisse vivre. Maintenant, c'est qu'il y a des gens qui en ont beaucoup trop, il y a des gens qui n'en ont pas du tout. Donc, il faut repenser la distribution des ressources et tout. Maintenant, si ceux qui en ont beaucoup veulent préserver tout ce qu'ils ont, ils vont dire qu'il y a trop de monde parce que, justement, si je prends un exemple, je prends l'industrie automobile. Ben, si les industries automobiles qui sont en Europe vendent assez de véhicules ou bien trop de véhicules aux pays d'Europe, il faut qu'il y ait un marché. Et ce marché ne peut pas être un marché concurrentiel. Si les pays africains parviennent à construire eux-mêmes leurs véhicules, où est-ce que les industries automobiles européennes vont construire, vont vendre? C'est ça, en fait, c'est un des grands problèmes, quoi. C'est le partage des ressources. Ne plus aller la richesse pour la richesse, mais la richesse pour la préservation de la vie sur Terre.
Comment est-ce que le Sénégal vit son indépendance, selon toi, des autres pays de l'Europe, de la France qui a été colonisateur?
Ouais, ben, c'est comme si tu te posais la question comment la France vit son indépendance par rapport à la Chine ou par rapport aux États-Unis.
Ah ben
Il n'y a pas un pays qui soit indépendant à proprement parler, que ce soit les États-Unis, la France, le Sénégal ou le Lesotho. Cette notion d'indépendance est très relative. Maintenant, on est un pays avec un État qui essaie de s'en sortir. Malgré qu'il y ait beaucoup de pressions, certains sont évitables, d'autres ne le sont pas. Par exemple, là, tu peux venir, toi, s'il n'y avait pas confinement et tout ça, et toutes ces histoires-là, tu peux te dire, écoute, la semaine prochaine, je vais aller voir Moussa au Sénégal. Et hop, ça se fait. Mais moi, je ne peux pas dire, l'année prochaine, je vais voir Baptiste. Et être sûr de le faire. Parce qu'on me demande un visa, on ne demande pas un visa. Et le Sénégal ne peut pas appliquer la réciprocité parce que s'il applique la réciprocité, il y a d'autres moyens de pression, notamment avec le tourisme, notamment avec ce qu'on appelle les coopérations, les aides et beaucoup d'autres choses en plus, quoi.
Tu as commencé à nous parler du monde d'après, d'une certaine manière. Qu'est-ce que toi tu vois pour cet après-confinement? Je continue à l'appeler comme ça pour nous parce qu'on est complètement confinés. Toi tu l'as choisi. Est-ce que tu imagines à quel moment ça va se relibérer au Sénégal, dans le monde? Et qu'est-ce qu'il faudrait qu'on fasse? Qu'est-ce qu'on doit garder? Qu'est-ce qu'il faut qu'on
Oh, moi,
développe?
objectivement, je peux pas penser le déconfinement total pour une partie ou pour un pays. Voilà, parce que déconfiner, ça veut dire faire tomber toutes les barrières. C'est pas seulement permettre à Baptiste d'aller à Die ou voilà. C'est aussi permettre à Baptiste de venir au Sénégal. Or, si le problème n'est pas réglé au Sénégal, Baptiste risque d'être infecté et de retourner dans la Drôme pour infecter les gens là-bas. Donc c'est comme ça que je pose le problème de déconfinement. C'est pas déconfinement, ouvrir les maisons et sortir dans la rue, mais un déconfinement de tout le monde et qu'on ne parle plus de ce virus-là. Et ça suppose de régler ce problème du virus, quoi.
Donc toi, ça passe forcément par donc soit trouver un vaccin, trouver les médicaments qui soignent, et se concentrer
Oui,
là-dessus.
mais bon, c'est d'abord pour soigner les gens qui sont malades et puis après régler ce problème-là pour que ce ne soit plus un problème comme ça. Ou alors penser un déconfinement des pays qui sont capables de régler ce problème-là et diriger d'autres formes de barrières pour que les gens, voilà, pour restreindre les libertés des uns et des autres. La libre circulation des personnes, quoi. Par exemple, si la France le règle et que ni l'Italie, ni l'Espagne, encore moins l'Angleterre ne règle ces problèmes-là, ça suppose que la France n'ouvre pas ses frontières et que vous restez vous êtes déconfiné de vos maisons, mais confiné à l'intérieur de la France. Si Paris règle le problème, ben, c'est que les Parisiens seront confinés à l'intérieur de Paris. Tu vois un peu ce que je veux dire.
C'est noir comme avenir.
C'est blanc comme avenir.
Qu'est-ce que tu penses du système dans lequel nous vivons et de son éventuelle, j'allais dire, culpabilité à nous avoir amenés là où on en est?
Ben, c'est d'abord que nos sociétés sont malades des différents systèmes qui ne sont pas intégrés, en fait, qui ont du mal à s'intégrer. Des systèmes sont faits pour à l'intérieur d'un que ce soit d'une région, d'une ville, d'un pays. Voilà, c'est ça l'un des problèmes. C'est là où on est malade vraiment. Parce que si on avait un seul système de santé, on aurait eu moins de problèmes qu'on a là. Et ça repose un peu la pertinence de l'existence de l'OMS et des systèmes des Nations Unies de manière générale.
Qui sont pas effectives, marchent
Et
pas.
les nations n'ont jamais été unies. C'est ça le problème. Ça le problème.
Je voudrais qu'on t'entende sur qu'est-ce que tu nous verrais faire, qu'est-ce qu'il faudrait qu'on fasse justement, qu'est-ce qu'on doit modifier de nos systèmes pour eh ben, soit appréhender les prochaines pandémies différemment. Mais on sait aussi déjà que cette pandémie crée une probable chute économique. Va modifier une partie des rapports sociaux et des liens entre les nations, tu venais de le dire. Qu'est-ce qu'il faut qu'on garde? Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Qu'est-ce qu'il faut qu'on développe?
Je pense que c'est lors du premier discours du président français là, où il disait qu'il faut réinventer les relations, les rapports sociaux. Je ne sais pas ce qui lui a fait dire ça, mais c'est un des grands problèmes, un des grands défis en fait, réinventer les systèmes, les rapports sociaux, les systèmes de solidarité, ce qu'on appelle solidarité, ce qu'on appelle rapports sociaux. C'est ça le problème. Les gens se sentent maintenant loin les uns des autres parce que ils ont tissé des rapports sociaux éloignés. Alors qu'à côté de chez toi, il y a quelqu'un. En face de chez toi, il y a quelqu'un. Dans l'appart où tu vis, il y a quelqu'un en haut, à gauche, à droite. Voilà, il faut réinventer le social et partir de ces liens sociaux pour établir autre chose.
Donc sur une base beaucoup plus locale, beaucoup plus réduite.
Je pense qu'il faut partir sur une base réduite et pour aller pour comprendre ce qui se passe au niveau global. C'est pas trop compliqué. C'est aller vers l'autre avec ce sentiment que l'autre, c'est aussi toi. C'est un peu ça.
Et est-ce que de ça peut découler une organisation politique, par exemple au Sénégal, comment est-ce que...
Je pense qu'au Sénégal, on a moins ce problème-là que là-bas, dans la Drôme ou en France de manière générale, parce qu'ici, les relations horizontales existent. Et c'est une réalité, quoi. Donc, le problème, c'est que de plus en plus, les gens, la classe moyenne, adoptent des réflexes un peu plus similaires aux réflexes que j'ai vus là-bas, que j'ai vus chez moi. Donc, ces relations sociales qui sont, bon, je vais dire, je vais l'emploi, qui sont éloignés, voilà, qui sont médiatisé par Internet, par les réseaux sociaux. On parle de réseaux sociaux maintenant. On ne parle pas de relations sociales. On parle de réseaux sociaux. Il est plus facile de connaître quelqu'un qu'on ne connaît pas vraiment que de connaître quelqu'un qu'on connaît réellement, qu'on peut connaître réellement. Ça ne se pose pas trop dans les zones rurales, mais dans les grandes villes, ça se pose.
Eh ben, on a du boulot, hein, franchement.
Eh ben, il y a du boulot, c'est pas seulement vous, c'est partout. Le problème se pose comme ça là-bas, mais ça se pose peut-être autrement ici. Parce que, comme je t'ai dit, les classes moyennes ont tendance à aller vers le sens où vous êtes actuellement et ça devient de plus en plus inquiétant, en tout cas pour moi.
Est-ce qu'il y a aussi une révolution écologique à faire au Sénégal, une révolution économique et une révolution sociale à produire liée
Il y
finalement à
a
cette pandémie?
plein de révolutions à mener ici. Il y a plein de révolutions, ça c'est sûr. Sur le plan écologique, il y a une révolution à faire sur le plan écologique. Tout est en train de foutre le camp parce que personne ne fait attention à rien du tout. Personne ne fait rien pour préserver ce bout de nature qu'on a ici. C'est d'où le projet Regard croisé sur la transition écologique, qu'on appelle le projet Skip Game. C'est ça un peu la motivation de ce projet-là.
Moussa, on arrive finalement à la fin de cet entretien, tous les deux. Comment tu voudrais le conclure? Qu'est-ce que tu voudrais nous dire, pour ton pays et pour le nôtre?
Ben, ce que je peux dire, c'est un peu si les gens, si ces moments de confinement, ces moments de recul, en fait, je vais plutôt l'appeler de recul, pouvaient permettre à chacun de revoir un peu sa copie, de revoir sa copie et de voir ce qui est essentiel et ce qui ne l'est pas, ce serait bien pour toute l'humanité. Donc, c'est un peu ça. Et tu donnais un peu l'exemple dans une discussion avec quelqu'un de ce qu'on appelle cette chose-là qu'on appelle modernité, qu'on appelle, j'ai le dire, Internet, les réseaux sociaux et tout cela. On croit avoir bougé d'un mètre, mais on n'a pas vraiment bougé. Baptiste, tu es là chez toi. Tu te dis que je suis un homme moderne, donc j'ai une appli sur mon téléphone, et puis on peut, à partir de cette appli-là, je vais pas bouger, on me livre une pizza. Tu penses avoir bougé dans Yota, mais tu n'as pas bougé dans Yota. C'est juste un petit étudiant, un étudiant qui est, voilà, qui fait son stage ou bien qui bosse pour une firme et qui a inventé une appli pour rendre riche cet homme-là, mais pas pour que Baptiste vive mieux. C'est juste pour rendre riche quelqu'un. Donc tu crois que tu entres dans la modernité, mais non, tu cèdes un peu de ta servitude. C'est 1 000 pas que tu allais faire dans la rue pour aller acheter une pizza. Ces gens que tu devais rencontrer, cet air que tu allais humer, c'est voilà, tout ça, c'est tout ça que tu lui cèdes pour cette appli-là, pour qu'il t'amène la pizza. C'est ça le problème.
Et en plus, c'est tout ce que je déteste. Voilà,
Donc
ça.
voilà, et là maintenant, qu'on croyait que tout ça, c'est des atouts, alors qu'on nous dit, écoutez, restez chez vous, et vous avez tout ça, toute cette modernité-là, tout ça, et on se rend compte, on devrait se rendre compte que, en fait, c'était pas ça le plus essentiel. On a parlé de distanciation sociale. Voilà, vous êtes en confinement et en distanciation sociale. Et on se rend compte que c'est pas ça une vie. Une vie, c'est des rapports sociaux directs. C'est ça, en fait. la vie, mais c'est pas de rester chez soi, d'avoir la télévision, d'avoir Internet, d'avoir le téléphone, d'avoir les services livrés à domicile et tout ça. C'est pas ça. C'est pas de ça dont on a besoin. C'est de sortir. C'est de tisser des relations sociales, c'est de vivre en fait.
Merci Moussa, merci beaucoup.
Merci Baptiste et merci la radio Diwa.
Et à bientôt au Sénégal, dès qu'on sera déconfiné. Hein?
D'accord.
Si ça
Ici ou
marche.
là-bas, ce sera pareil.
Si ça marche bien, le projet de Rome Sénégal, puisqu'on en parlait depuis le début, y a normalement un trajet qui pourrait être prévu dans le courant du mois de juillet. Bon, ça a l'air un peu râpé, on ira à l'automne. De toute façon, il fait beau.
Bah, il fait toujours bon.
Bon,
Ouais.
parce que toi, t'es venu prendre la neige, quoi.
Ouais, j'ai vu. J'ai vu et je sais maintenant.
À la prochaine.
Merci. What is
Kam kore jam sa, ini sarai namasa. Tala, Saida Tala, 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 Tala